Lizzie présente Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Lu par Aline Afanoukoé. Introduction. Écrire un livre pour critiquer le désir de beauté? Il n'y a pas de mal à vouloir être belle, m'a-t-on parfois objecté lorsque j'évoquais autour de moi le projet de cet essai. Non, en effet. Ce désir, je souhaite même le défendre. Le problème, c'est que dire cela à une femme aujourd'hui revient un peu à dire à un alcoolique au bord du coma éthylique qu'un petit verre de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne. Autant l'admettre. Dans une société où compte avant tout l'écoulement des produits, où la logique consumériste s'étend à tous les domaines de la vie, où l'évanouissement des idéaux laisse le champ libre à toutes les névroses, où règnent à la fois les fantasmes de toute puissance et une très vieille haine du corps, surtout lorsqu'il est féminin, nous n'avons quasiment aucune chance de vivre les soins de beauté dans le climat de sérénité idyllique que nous vend l'illusion publicitaire. Pourtant, même si l'on soupire de temps à autre contre des normes tyranniques, la réalité de ce que recouvrent les préoccupations esthétiques chez les femmes fait l'objet d'un déni stupéfiant. L'image de la femme équilibrée, épanouie, à la fois active et séductrice, se démenant pour ne rater aucune des opportunités que lui offre notre monde moderne et égalitaire, constitue une sorte de vérité officielle à laquelle personne ne semble vouloir renoncer. Pendant ce temps, sans qu'on y prenne garde, notre vision de la féminité se réduit de plus en plus à une poignée de clichés mièvres et conformistes. La dureté de l'époque aidant, la tentation est grande de se replier sur ses vocations traditionnelles, se faire belle et materner. Le cinéma est gangréné par le phénomène des égéries, ces actrices sous contrat avec un parfumeur, un maroquinier ou une marque de cosmétiques, et plus préoccupées de soigner leur image de porte-manteau maigrichon tiré à quatre épingles que d'étendre la palette de leur jeu. Le succès des blogs mode ou beauté témoigne lui aussi d'un horizon mental saturé par les crèmes et les chiffons. Au-delà des belles images, l'omniprésence de modèles inatteignables enferme nombre de femmes dans la haine d'elles-mêmes, dans des spirales ruineuses et destructrices où elles laissent une quantité d'énergie exorbitante. L'obsession de la minceur trahit une condamnation persistante du féminin, un sentiment de culpabilité obscure et ravageur. La crainte d'être laissée pour compte fait naître le projet de refaçonner par la chirurgie un corps perçu comme une matière inerte, désenchantée, malléable à merci, un objet extérieur avec lequel le soi ne s'identifie en aucune manière. Enfin, la mondialisation des industries cosmétiques et des groupes de médias aboutit à répandre sur toute la planète le modèle unique de la blancheur, réactivant parfois des hiérarchies locales délétères. Les conséquences de cette aliénation sont loin de se limiter à une perte de temps, d'argent et d'énergie. La peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, la soumission aux jugements extérieurs, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres, traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leur effet à tous les domaines de la vie des femmes. Elles les amènent à tout accepter de leur entourage, à faire passer leur propre bien-être, leurs intérêts, leurs ressentis, après ceux des autres, à toujours se sentir coupable de quelque chose, à s'adapter à tout prix, au lieu de fixer leurs propres règles, à ne pas savoir exister autrement que par la séduction, se condamnant ainsi à un état de subordination permanente, à se mettre au service de figures masculines admirées, au lieu de poursuivre leur propre but. Ainsi, la question du corps pourrait bien constituer un levier essentiel, la clé d'une avancée des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences conjugales à celle contre les inégalités au travail, en passant par la défense des droits reproductifs. En France, cependant, cette question est toujours restée dans l'angle mort. Elle suscite plutôt l'indifférence. Les féministes, contrairement à leurs homologues américaines, ne s'en sont jamais vraiment emparées, y voyant au mieux un enjeu secondaire. À leur relatif désintérêt s'ajoute l'absence d'une tradition française d'étude de la culture de masse, considérée comme un objet scientifique indigne, anodin ou vulgaire, ou les deux. Or, les films, les feuilletons, les émissions de télévision, les jeux, les magazines, parce qu'ils impliquent une relation affective, ludique, aux représentations qu'ils proposent, parce qu'ils mettent en branle les pouvoirs de la fiction et de l'imaginaire, informent en profondeur la mentalité de leur public, jeune et moins jeune. Dans ce contexte, un magazine comme Elle peut se proclamer féministe sans, toujours, susciter l'hilarité et une Elisabeth Badinter juger les représentations publicitaires inoffensives sans voir son crédit entamé. Il a fallu attendre la parution de son livre sur les dérives supposées de l'écologie, en 2010, pour que sa qualité d'actionnaire principal de Publicis, troisième groupe mondial de publicité, soit mise en avant après avoir longtemps été éclipsée par le prestige du nom de son mari. De même, en 2011, les commentaires suscités par les soutiens-gorges ampliformes pour fillettes ou les mini-spas se contentaient souvent d'accuser le marketing. Cette explication nous fait penser aux blagues racistes ou misogynes dont l'auteur lance, lorsqu'il constate que son interlocuteur n'est pas vraiment plié en deux, « Oh, mais c'est de l'humour !» Or, il n'est pas innocent de prétendre faire vendre précisément avec ça. Comme il n'est pas innocent de prétendre faire rire avec ça. Mais faut-il parler d'indifférence ou d'acquiescement ? Amorcer une critique de l'aliénation féminine à l'obsession des apparences fait immédiatement surgir dans les esprits le pire cauchemar des essayistes germano-pratin. La féministe américaine, char d'assaut monté sur des baskets, pointure 44, qui exhibe ses poils aux jambes, passe son temps à se couvrir la tête de cendres en dévidant d'une voix caverneuse sa litanie, victimaire, et vous intente un procès pour viol dès que vous la regardez dans les yeux sans son consentement explicite. Pas de ça chez nous. De toute façon, nous explique-t-on, pour mieux conjurer ce spectre funeste, on n'en a pas besoin, car la France, elle, a su œuvrer pour l'égalité des sexes tout en préservant le délicieux frisson des rapports de séduction. C'est à se demander comment font les Américains pour continuer à se reproduire. Pour le démontrer, Pascal Bruckner, dans « La tentation de l'innocence », paru en 1995, convoque pêle-mêle Louise Labbé, les précieuses, les libertins et les troubadours. Dans « Les mots des femmes », la même année, Mona Ozouf tente elle aussi d'expliquer pourquoi le discours du féminisme extrémiste trouve par bonheur si peu d'écho en France. En 2006, Claude Habib, une spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, lui emboîte le pas avec un hommage qu'elle lui dédie à la galanterie française. Bien des féministes n'ont pas reculé devant le rôle de rabat-joie, y déplore-t-elle, ignorant apparemment combien c'est classique avec ces garces. Elles ont attaqué l'hypothèse galante en brandissant le fait des crimes sexuels qui se commettent en France. Si des violences contre les femmes se produisent ici comme ailleurs, c'est que la prétendue entente des sexes est une duperie. Et pourtant, argue-t-elle, il n'est pas impensable qu'une même société abrite, sur un même sujet, la délicatesse et la brutalité. Ainsi, depuis la seconde moitié du XXe siècle, le souci des animaux domestiques et la maltraitance des animaux d'élevage se sont développés parallèlement. De l'art de choisir ses comparaisons. De surcroît, on sous-estime les vertus quasi thaumaturgiques exercées par la galanterie, véritable poudre de perlimpinpin, sur les aspects contrariants que pourrait présenter la condition des femmes françaises. Au sein de leur foyer, même si les Françaises travaillent, elles ne servent pas. Elles font ce qu'il leur plaît de faire. Sans nous en rendre compte, nous sommes habitués à un régime d'égard. Il est exclu qu'un mari parle à sa femme comme à une servante. Monsieur est trop bon. Au moins, les partis pris sont clairs et l'homophobie s'affiche tranquillement. Au malaise qui touche le caractère national dans son ensemble s'ajoute, dans le cas de la galanterie, un second facteur de fragilité. Le grave ébranlement des identités sexuelles qu'ont produit la contestation féministe, puis l'affirmation des homosexualités.